Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Macron accroît l'implication de la France dans la guerre en Ukraine. Selon le Kremlin, c'est l'avertissement donc adressé cet après-midi par Moscou, alors même que le président a confirmé aujourd'hui ne pas avoir de ligne rouge dans le soutien à l'Ukraine. Depuis hier soir, il enchaîne les entretiens avec des anciens présidents et les chefs de parti. Tous, ce matin, s'inquiètent d'un Macron qui pousse le rapport de force avec Vladimir Poutine. Irresponsable, dangereux pour la paix dans le monde, inquiétude de voir le bras de fer entre deux puissances nucléaires, voilà en gros la tonalité des réactions dans la cour de l'Élysée à la veille d'un débat qui se tiendra au Parlement mardi prochain. Alors que cherche vraiment le président? Pourquoi veut-il préparer, en quelque sorte, l'opinion à la guerre? Les menaces du Kremlin sont-elles à prendre au sérieux? Dans ce contexte, un débat est en train de naître en Europe. Faut-il relancer le service militaire face à Poutine? Les Français prêt à la guerre? C'est une question que nous posons ce soir. Avec nous pour en parler, Jean-Paul Perruche, vous êtes général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Vous êtes aussi l'ancien président d'Eurodéfense France. Avec nous ce soir, Alain Pirot, vous êtes journaliste et réalisateur, spécialiste des questions de défense. Marion Van Rettegem, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Je cite votre dernière chronique, Ukraine, Taïwan, OTAN. Emmanuel Macron, le président qui fâche à tort et a raison. Et puis votre dernier livre, bien sûr, Le piège Nord Stream, publié aux Arènes. Enfin, Bénédicte Chéron est avec nous ce soir. Vous êtes historienne, spécialiste des questions militaires et maître de conférences à l'Institut catholique de Paris. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je reprends cette phrase quand même. Macron accroît l'implication de la France dans la guerre en Ukraine, selon le Kremlin. Jean-Paul Perruche, ça s'appelle un avertissement?
Oui, mais le Kremlin est dans son rôle dans la guerre de communication qu'il livre depuis le début de l'intervention en Ukraine.
Il n'y a pas une petite montée en pression quand même dans le ton?
Il y a forcément une montée en pression parce que la déclaration du président Macron comporte un éventail de capacités d'aide à l'Ukraine qui va au-delà de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc ça ne va pas dans le bon sens pour la Russie, si vous voulez. Ouais. Donc il est normal qu'il y ait cette réaction au niveau de l'information. Maintenant, moi, il y a un point que je voudrais soulever.
Allez-y.
C'est que le problème actuel de la défense des pays européens, c'est que les axiomes sur lesquels était fondée la défense de nos pays, des pays de l'Europe, les pays européens, c'était d'une part la garantie de sécurité américaine, quoi qu'il arrive, ouais, normalement, ou à peu près, et de d'autre part, la fin de la guerre. Ouais. Et ces deux axiomes-là disparaissent en même temps. Inutile de vous dire que ça crée un certain vertige pour les chefs d'État et de gouvernement. Donc voilà dans quel contexte se situe, à mon avis, la déclaration du président français.
Alors là, on parle de la déclaration d'envoyer des troupes, mais depuis, il a reçu des responsables politiques, il a reçu deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et aujourd'hui, toute la journée, des responsables politiques. Ils sont sortis en disant que Macron leur avait dit qu'il ne se fixait pas de ligne rouge. Il n'y a plus de ligne rouge.
Oui, il faut bien prendre conscience que les lignes rouges, si vous voulez, sont autant de handicaps dans un rapport de force. Tout ce que vous vous imposez joue pour l'adversaire dans une certaine mesure. Et on voit bien le handicap qui avait été mis aux Ukrainiens de ne jamais intervenir sur le territoire de la Russie, etc. Alors que les Russes tirent sur la zone des combats depuis leur propre territoire. Ça, ce sont des restrictions qui sont évidemment... C'est comme un coureur de 100 mètres à qui on met un poids au pied, hein, si vous voulez. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un déséquilibre dans le rapport de force et en défaveur de l'Ukraine qui est agressée.
La position de la France a changé. Il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite, dit Fabien Roussel, qui était très inquiet à la sortie de cette réunion. Je peux citer aussi Jordan Bardella qui dit: à partir du moment où on envisage l'hypothèse d'envoyer des troupes au sol et qu'on fait connaître cette hypothèse à une puissance nucléaire comme la Russie, c'est irresponsable et dangereux pour la paix dans le monde.
C'est ce qu'a dit aussi François Hollande. Il dit qu'il faut mieux ne pas en parler et faire les choses plutôt en coulisses. Il y a une volonté, je suis d'accord avec le général Perruche, de dicter le tempo à l'Élysée. Ça, c'est certain. De reprendre une forme de tempo, de marquer le ton et d'amener le Kremlin en réaction. On peut dire que la réaction du Kremlin, ça réussit plutôt. C'est à quel point cette position stratégique qui fixe un rapport de force s'appuie sur des éléments concrets. S'appuie sur une capacité réelle à vouloir envoyer des troupes. Et à quel point l'incantatoire peut se transformer réellement en données stratégiques. Il est certain que chez les Ukrainiens, c'est ce qu'on reçoit aujourd'hui comme information, il y a toujours eu une attente de conseillers sur des postes précis, du cyber, de la maintenance. Mmh. Et donc, il faut aussi préparer l'opinion. Il aurait pu le faire plus discrètement, au risque que quelqu'un le découvre et dise « Mais vous ne nous avez pas dit, en fait,
c'est
vous avez
envoyé... » C'est ça qu'il fait, Alain Pirot. Il nous prépare, on a choisi de titrer de manière un peu provocatrice ce soir, « Les Français sont-ils prêts à la guerre ?» C'est ça qu'il veut, c'est cette idée-là qu'il veut qu'on prépare ?
Je pense qu'il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées, notamment sur le fait que, si je reprends une donnée qu'on a déjà oubliée, c'était en 2022, l'économie de guerre.
Oui.
Je pense qu'à l'Élysée, il y a aussi la conviction aujourd'hui que l'économie de guerre n'est pas rentrée en état dans notre pays. Et donc, il faut continuer à préparer les esprits, quitte à franchir des lignes, mais des lignes qui ont des réalités stratégiques sur le terrain.
Et on va les analyser ce soir avec vous, Marion Rettegem, sur le moment que nous sommes en train de vivre. Je le disais, donc deux présidents hier soir qui ont été reçus, aujourd'hui l'ensemble de la classe politique et Emmanuel Macron qui veut désormais dire les choses. Il n'y a plus de ligne rouge et s'il faut envoyer des troupes, on ira. Et en gros, suivez-moi comme un seul homme, quoi. Je suis le chef des armées.
Ça donne une idée de la gravité extrême, ouais, du moment. Et je pense que Emmanuel Macron est parmi les dirigeants, avec les Baltes et les Polonais, celui qui en a le plus conscience et qui a trouvé les mots les plus justes pour le dire. Maintenant, il joue un coup de poker. Comme tous les coups de poker, c'est risqué. On peut gagner gros, mais on peut perdre beaucoup. Ce coup de poker, c'est vis-à-vis des autres Européens. Parce qu'il a cassé l'unité. Il a voulu cette fameuse réunion du 26 février où il a reçu des dirigeants, pas seulement européens, d'ailleurs aussi américains et canadiens, dont l'objectif était clair, c'était dire d'abord la Russie ne doit pas gagner cette guerre, l'Ukraine doit gagner, il en va de notre existence à nous, non seulement à l'existence de l'Ukraine, il en va de l'existence de l'Union européenne et de la sécurité des États de l'Union européenne. Ça, c'était l'objectif clair. La stratégie claire aussi, c'était justement cette réunion en présentait l'objet, ouais, c'était de dire nous sommes unis et déterminés, mais c'était la tactique qui montrait un peu de maladresse ou de flottement. C'est-à-dire qu'en lâchant ce mot dont ils étaient convenus tous ensemble qu'on n'en parlerait pas, ils avaient parlé longtemps, depuis des mois, des troupes au sol, mais il était convenu par chacun des États membres que c'était trop tôt pour en parler.
Il l'a fait, il en a parlé, on l'a commenté ici même sur ce plateau, il va encore plus loin.
Et il va encore plus loin. Et là, c'est risqué parce qu'il fâche, il crée un électrochoc, volontairement ou pas, parce que je pense qu'il y a une partie qui lui a échappé, ça n'était pas prévu ce soir-là. Il secoue le cocotier, mais du coup, il fâche, il vexe d'autres États membres. Et sans unité européenne, il n'y a rien qui
se passe. Et ça, on va en parler, Marion Van Rettegem, de l'unité européenne, des munitions, des obus, de l'économie de guerre. Nous, les Français, Bénédicte Chéron, qu'est-ce qu'il veut nous dire à nous ? Il y a une inquiétude aujourd'hui dans le pays. Vous travaillez sur ces questions depuis longtemps, sur les rapports entre l'armée et la société française. Est-ce qu'il veut, à un moment donné, nous sensibiliser à un péril ?
Il y a aussi un coup de poker là-dessus. Alors, il faut parler avec beaucoup d'humilité, hein, de la manière dont une société perçoit, ne perçoit pas une menace.
D'accord.
Une société perçoit, c'est toujours très difficile, surtout à chaud, à essayer d'analyser. Mais on peut quand même dire, vous disiez qu'il y a les Baltes, il y a les Polonais, mais en fait, les Français ne sont ni des Baltes ni des Polonais. Et les Français ont une vision claire aussi que nous ne sommes pas frontaliers immédiats de cette menace. Les Français entendent bien, savent bien que nous avons une dissuasion nucléaire qui est vendue aux Français depuis les années 60 comme une muraille, comme un rempart, qui donc les protège d'un certain nombre de choses. Et en fait, c'est un peu toute la difficulté. C'est-à-dire que quand on lâche troupe au sol à une opinion publique, d'abord, troupe au sol, c'est pas militaire au sol, c'est pas des unités au sol. Le mot troupe, dans l'imaginaire collectif, il renvoie à des images qui sont des images de masse. C'est pour ça que très vite derrière vient, et on en parlera, la question de la conscription du service militaire avec une dose de fantasme certaine.
Avec l'idée que les Français se disent peut-être, est-ce qu'on est prêt à aller mourir pour le Donbass ?
Mais parce que la troupe envoie une image. Donc c'est d'abord un mot alors qui vient dans une question, hein, donc qui n'est pas forcément employé sciemment, mais qui renvoie à un imaginaire. Et puis on voit bien que ça déclenche aussi un débat public dans lequel sont appelées des références historiques lointaines, celles de l'avant 14. Alors il y a ceux qui citent les somnambules de Christopher Clark, qui vont à la guerre comme ceux qui vont à la guerre comme des somnambules. Il y a ceux qui invoquent 1938.
Pourquoi ces références historiques ?
Parce que ce sont celles qui écrasent notre mémoire des guerres.
Alors, on peut rappeler peut-être ce qui s'est passé.
La veille de 1914, on va vers la guerre. La veille de 1938, on y va, mais avec une conscience d'un certain nombre d'élites qui n'est pas forcément très aiguisée sur les menaces précisément qui s'annoncent. Et on oublie que depuis ces deux épisodes, les Français ont aussi appris qu'il y avait eu 30 ans de guerre froide, qu'il y a eu de la, enfin plus même, mais en tout cas un certain nombre de tensions, qu'il y a eu une dissuasion nucléaire qui s'est installée, des équilibres nucléaires qui se sont installés, et on ne peut pas demander aux Français d'oublier toutes ces étapes. Il y a eu des étapes de grande tension.
Mais c'est vrai qu'il y a déjà la référence à Munich. Dans le débat public en ce moment, il y a un peu ce qu'on on traite de Munichois, sous-entendu ceux qui sont allés signer en 38 pour que...
On comprend le pourquoi de l'appel à cette mémoire, et en même temps, c'est toujours délicat parce qu'il y a aussi plein de dissonances avec la réalité de ce qui s'est produit en 38 et la réalité du présent. Le parallèle historique, on comprend son utilité dans le débat public, mais nous ne vivons jamais absolument la même chose. Et en fait, les opinions publiques le savent que nous ne vivons pas absolument la même chose. Donc le risque, c'est aussi dans un moment où il y a une grande défiance envers toute parole officielle, celle des politiques, mais aussi celle des journalistes, celle des éditorialistes, celle que nous avons ici sur ce plateau, que quand on invoque ces références qui écrasent notre mémoire collective de leur poids traumatique, eh bien, les opinions publiques puissent avoir l'impression qu'on les abuse aussi un petit peu sur des réalités qui ne sont pas absolument équivalentes. Mmh. Donc voilà, il y a toute cette perception.
C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il surjoue des circonstances historiques parce que ça lui serait reproché.
Je ne suis pas sûre que lui le surjoue. En revanche, ce qu'il dit déclenche des postures dont certaines peut-être effectivement surjouent un certain.
C'est vrai que sur les parallèles historiques, c'est intéressant ce qui est rappelé à l'instant, l'esprit munichois, etc. On l'entend beaucoup en ce moment.
Absolument. Effectivement, vous avez raison de souligner que les situations ne sont jamais exactement pareilles, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans les années 38-39 nous étions dans des démocraties, et dans les démocraties, les gens sont épris de paix, heureusement, et donc cherchent la paix, j'allais dire, presque à tout prix. Et les dirigeants politiques de cette époque-là, que ce soit Chamberlain, Daladier et d'autres, avaient beaucoup de mal et presque aussi de la réticence à expliquer aux gens la réalité de ce qu'était Hitler et son régime. Peut-être d'ailleurs ne l'avaient-ils pas perçu eux-mêmes complètement. Si bien qu'on est allé de reculade en reculade et finalement on a fait la guerre dans de très mauvaises conditions. Donc si on fait le parallèle avec la situation actuelle, qui encore une fois n'est pas exactement semblable, mais on a quand même beaucoup de points communs. C'est une guerre pour le Lebensraum que conduit Lebensraum, l'espace vital, que conduit Vladimir Poutine en Ukraine et ailleurs. On peut faire le parallèle avec l'Anschluss, avec les Sudètes, et puis la Pologne après. Et donc, on voit bien qu'engagé dans une guerre comme ça, avec une économie de guerre, je crains que la Pologne ne soit que le premier épisode d'une aventure qui ira plus loin à tous les coups. Imaginons que demain, ce soit à nouveau Donald Trump qui soit président des États-Unis, qui a dit qu'il allait régler le problème de l'Ukraine en 24 heures. Comment peut-on le régler en 24 heures? On peut dire simplement à Vladimir Poutine, écoutez, ce que vous avez conquis est à vous. Arrêtez-vous pour l'instant, ça nous gêne beaucoup de continuer. Et on risque de négocier en mauvaise posture.
Juste pour préciser et répondre, ce qui se joue quand même, c'est que les opinions publiques ne sont pas uniformes en Europe. C'est ça que j'essaye de dire. Et qu'en fait, en 38, la menace, elle est mal perçue, mal expliquée, c'est certain, mais elle est très très proche géographiquement. Et il y a une mémoire toute fraîche de la Première Guerre mondiale. Là, l'opinion publique française n'est pas absolument l'opinion publique polonaise, ne l'est même
on l'a
pas
entendu,
du tout.
Je redis cette phrase qu'on a entendue dans le débat. Voilà, nous ne sommes pas prêts à aller mourir pour Donbass.
Tous ces mots s'inscrivent dans une opinion publique dont il faut prendre conscience. Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais qu'elle se situe à l'autre bout de l'Europe, c'est comme ça en tout cas que ça peut être perçu, avec une distance géographique qui n'est pas très grande, mais qui existe malgré tout.
Et puis avec une histoire avec la Russie qui n'est pas exactement la même que celle à l'époque avec l'Allemagne. On va poursuivre cette discussion qui est passionnante, je vous en remercie. En tout cas, preuve que l'histoire est en marche. Les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont donc été convoqués, c'est selon hier soir à l'Élysée, pour évoquer la situation en Ukraine. Depuis ce matin, c'est un défilé de tous les chefs de parti qui sont invités à débattre sur l'implication de la France. Tous marquent leur inquiétude devant la montée en pression d'Emmanuel Macron, qui affirme ne mettre désormais aucune ligne rouge dans son soutien à l'Ukraine. Le Adémidjan et Nicolas Baudry-Dasson.
La France, la guerre. La France en guerre. Des mots au cœur des consultations qui ont eu lieu à l'Élysée ce matin. Autour d'Emmanuel Macron, tous les chefs des partis politiques. Le président recueille les avis des uns et des autres sur la situation en Ukraine. À la sortie face caméra, les oppositions insistent sur leur désaccord.
Je suis arrivé inquiet et je suis ressorti plus inquiet encore. Puisque le président de la République, loin de revenir sur les déclarations qui étaient les siennes la semaine dernière, les a confirmées.
C'est extrêmement inquiétant de voir un président de la République français qui explique face à quelqu'un qui détient l'arme nucléaire que nous détenons nous-mêmes qu'il faut montrer que nous sommes sans limite.
Je lui ai indiqué que les différentes positions qui ont été les siennes ces derniers jours, des positions de va-t-en-guerre qui n'excluaient plus l'envoi de troupes française en Ukraine, suscitait l'inquiétude dans le pays auprès des Français.
Voilà ce que les uns et les autres ont dit à Emmanuel Macron. Mais le président écoute-t-il? Ou bien s'agit-il d'une manœuvre pour être écouté? Hier déjà, Emmanuel Macron recevait chacun leur tour les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. À la sortie, seul son prédécesseur socialiste livre sa pensée d'ancien chef des armées.
Ma position sur les questions militaires, et je l'ai montré quand j'étais président, c'est que moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité et de ne rien faire connaître à, en l'occurrence, Vladimir Poutine, de nos intentions.
Il y a 10 jours, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, en une petite phrase, Emmanuel Macron a pris ses alliés de court.
Rien ne doit être exclu.
Pas même l'envoi de troupes au sol en Ukraine. La déclaration provoque un tollé. Quoique isolé, Emmanuel Macron persiste et signe une semaine plus tard lors d'un déplacement à Prague.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. La guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage.
Changement de ton au sommet de l'État. Le président veut marquer les esprits, souligner la menace que représente Vladimir Poutine. Et le porte-parole du Kremlin lui répond aujourd'hui.
Monsieur Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France.
Le Kremlin cible ouvertement Paris, signe du degré de tension. Le président français organise lui un débat et un vote au Parlement mardi et mercredi prochain. Hier, le quotidien Le Monde citait une source à l'Élysée qui affirmait ceci.
Bas les masques, il n'y a rien de mieux qu'un vote pour savoir où les gens habitent.
Savoir où les gens habitent, c'est-à-dire, dans ce rapport de force, connaître précisément les positions des leaders politiques français à 3 mois des européennes.
Et nous allons revenir sur ce reportage, juste pour ajouter une déclaration du chef de l'Académie militaire des forces armées en Russie qui vient de dire cet après-midi « Le conflit pourrait dégénérer en une guerre à grande échelle en Europe ». Ça ajoute à ces déclarations russes qui, chacun monte en tension.
C'est toujours la même guerre informationnelle du côté russe. Ça consiste à faire peur, à terroriser les opinions publiques des démocraties. Ils savent bien que c'est notre point faible, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'en réponse, dans une démocratie, si on veut prendre des mesures difficiles, qui coûtent cher, et à coup sûr, le soutien à l'Ukraine va coûter cher, il faut sensibiliser l'opinion publique et donc peut-être forcer le trait sur la gravité de la situation. Autrement,
c'est le sens du débat et du vote qui sera organisé au Parlement, à la place qui est la vôtre, en tant que militaire. Vous trouvez que c'est une bonne chose, à un moment donné, justement, que tous les partis politiques se positionnent, notamment sur le traité bilatéral qu'on a conclu avec l'Ukraine?
C'est indispensable.
D'accord.
Parce que si le président n'est pas... ses décisions ne reposent pas sur un appui de son opinion publique, alors ça n'a pas de valeur, vous voyez. Donc, l'opposant, l'adversaire s'en rendra compte très vite. Donc, il faut absolument qu'il y ait quand même une approbation, au moins partielle, mais des décisions prises par le chef de l'État au niveau de l'opinion publique.
Il y a une réalité que vous évoquez dans le reportage, savoir où les gens habitent. Ouais. Ça marche aussi. On voit depuis quelques jours certains responsables politiques, parfois du passé, s'exprimer, afficher des positions qui démontrent soit une méconnaissance totale de ce qui se passe actuellement en Ukraine.
Vous pensez à qui ?
Je pense à une ancienne ministre, une ancienne candidate à la présidentielle qui a eu des déclarations disant l'Ukraine, il faut amener tout le monde vers le chemin de la paix.
C'est
en faisant fi totalement de ce qu'est la réalité, de ce qu'est la nécessité de voir pour les Ukrainiens. Parce qu'on en oublie presque dans ce débat qu'il y a des Ukrainiens qui vivent ça au quotidien, tous les matins, tous les soirs, à travers les bombardements. Eux, qu'est-ce qu'ils attendent ? Que les troupes russes regagnent les frontières qui étaient celles bien avant la guerre de 2014. Donc,
vous avez raison, Alain Pirot. Vous dites les Ukrainiens, au fond, c'est eux qui sont en première ligne. Mais ce qu'on a compris de ces derniers jours aussi, de ce que nous a dit le chef de l'État, c'est que la France était menacée aussi, c'est-à-dire avec des attaques de guerre informationnelle, avec des attaques ciblées sur le président de la République. On peut peut-être en dire un mot. C'était une vidéo de France 24 qui expliquait qu'il y avait une menace de mort sur le chef de l'État et qu'il avait dû annuler son déplacement en Ukraine, ce qui était une fake news. Mais qu'il y avait peut-être un message derrière directement visant le président de la République.
En tout cas, l'information a totalement ulcéré l'entourage à l'Élysée et le président lui-même, parce qu'elle s'attaquait de fait à la personne lui-même.
C'est ça.
Je pense que, et c'est aussi une réalité du moment qui montre aussi à quel point l'histoire s'écrit. Je pense que le président Macron a changé aussi sur sa stratégie très clairement vis-à-vis du président Poutine et qu'il a compris qu'on ne gagne rien avec le président Poutine sans affirmer une position
de force.
Et de force. Alors après, est-ce qu'elle s'inscrit, ce que je vous dis, sur soit de l'incantatoire ou des réalités stratégiques ? Ça, c'est une autre donnée. Et d'ailleurs, on va bien voir comment le Kremlin va mettre à certains moments en doute ou va donner des attaques informationnelles, va jouer sur l'opinion française et sur la sensibilité de la population française. On avait vu cette escalade avec la guerre nucléaire, en tout cas le présent. En fait, on voit l'autre forme d'escalade sur l'idée de voir nos enfants ou voir vos fils mourir sur la ligne de front. La réalité, c'est que, et le ministre de la Défense, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, l'a redit, l'idée n'est pas d'être dans une belligérance sur le terrain. L'idée, elle est d'amener possiblement des hommes ou des conseillers militaires français pouvant amener une forme d'expertise sur des domaines précis.
Il y en a déjà, Alain Pirot. Il y a déjà des troupes françaises en Ukraine. En vérité,
il y en a déjà, mais il ne faut pas toujours l'assumer.
D'accord.
Macron l'a dit lui-même dans cette fameuse phrase. Oui. Il a dit de manière officielle, on pourrait introduire des troupes au sol, sous-entendu, et assumer, sous-entendu de manière non assumée,
d'accord,
non officielle.
Il y en a.
Mais sur des rôles précis qui ont toujours existé sous ces formes de guerre hybride, y compris menées par les armées.
Ça ferait de nous des co-belligérants. D'assumer officiellement, de dire nous envoyons des troupes pour faire ce que vous venez d'expliquer.
Non. Oui, mais je pense que là. Alors, point de vue juridique, non. Mais in fine, le président Macron, à un moment, j'ai envie de dire, arrête une lubie qui est de croire qu'à un moment, nous ne sommes pas impliqués dans ce combat en fournissant des armes à l'Ukraine. Je crois qu'à un moment...
Pas leur dire les choses.
Il faut assumer les choses, enfin. Et d'ailleurs, on l'assume quand on donne la liste des équipements militaires, ce qui a été fait par le ministère des Armées il y a une quinzaine de jours.
Vous êtes d'accord avec ça, Général, sur ce qui vient d'être dit, sur cette espèce de mot qu'on essaie de contourner, on n'est pas co-belligérant, ah non, on n'est pas en guerre. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que va falloir y aller.
Oui, parce que ça, c'est encore des mots, si vous voulez. Hein. Et la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'il y a une escalade, effectivement, mais dont l'initiative revient à la Russie de Vladimir Poutine. Nous sommes en réponse par rapport à l'escalade. On n'a jamais essayé de prendre le dessus en rajoutant une couche. On dit simplement qu'on ne veut pas que les Russes gagnent en Ukraine. Ouais. En Ukraine. Ouais. Autrement dit, retournez chez vous et tout ira bien. On en est là. Ouais. Vous voyez ? Et tout ce qui est, toutes les décisions qui sont prises, les déclarations, etc., sont cohérentes par rapport à ça.
Comment vous réagissez aux déclarations politiques qu'on vient d'entendre ? Je vous ferai un tour de table à l'instant, mais... avec une classe politique qui dit « mais on est très inquiet ». On parle là de la grande Russie, on parle là d'une puissance nucléaire. Il y a une inquiétude qui est exprimée par tous les partis politiques qui sont allés voir le président aujourd'hui.
Mais nous parlons d'un pays qui cherche à nous nuire, déjà depuis très longtemps, pas seulement à travers la guerre de l'Ukraine, mais les menaces hybrides qui ont été révélées déjà depuis plusieurs mois maintenant dans notre pays. On ouvre les yeux, on a été naïfs pendant très longtemps. Et puis nos intérêts en Afrique aussi, avec le groupe Wagner, ont été sérieusement compromis. Et partout, au Moyen-Orient aussi. Donc on voit bien, on n'est pas en guerre contre le peuple russe, mais la Russie de Vladimir Poutine est en guerre contre entre nous.
Marion Van Rettegem.
Oui, je pense que toute cette mise en scène un peu solennelle du président Macron fait partie de ce coup de poker que j'évoquais, qui est à la fois destiné aux Européens dans leur ensemble et évidemment aux opinions publiques françaises pour, comme vous le disiez très bien, rappeler que c'est notre guerre. On a mis 20 ans déjà à ne pas vouloir voir qui était Vladimir Poutine. Il y avait vraiment des signes pour le comprendre dès son arrivée au pouvoir, la manière dont il a fait la guerre en Tchétchénie. Et c'est un homme qui n'a jamais cessé de faire la guerre et à qui on n'a jamais cessé de faire des concessions en espérant que ça s'arrête. Donc déjà, on a cet aveuglement-là, mais on a mis aussi beaucoup de temps, et y compris le président Macron, à imaginer que ça pouvait se régler par la négociation. Or, Vladimir Poutine est un homme qui ne comprend que la force. Et là, il est grand temps que la nation se rassemble et comprenne que ce n'est pas la guerre des autres, que c'est une guerre qui nous concerne, que même avant que des attaques soient directement visées à des cyberattaques, c'est cette guerre de l'information qui a profondément heurté Emmanuel Macron, la guerre de l'Ukraine en soi fait partie du continent européen. Une défaite de l'Ukraine menace directement la sécurité européenne, remet totalement en cause la crédibilité du droit international, du respect des frontières, des principes acquis après la chute du mur de Berlin, dont la Russie était elle-même signataire. Tout ça, c'est extrêmement important. Et donc,
c'est dur à faire passer ce message-là.
La nation.
Marion, c'est difficile de faire passer ce message-là pour les raisons que vous évoquiez à l'instant, des raisons géographiques, des raisons de se dire, mais enfin, on dit c'est la guerre, etc., ils nous visent, mais en réalité, c'est pas nous qui sommes sous les bombes et qui voyons arriver les chars.
C'est bien le problème, et c'est là qu'on parlait tout à l'heure des accords de Munich, et c'est vrai qu'on a beaucoup galvaudé même l'accusation de Munichois, or elle n'a jamais été aussi réelle, et c'est très étonnant d'ailleurs que Emmanuel Macron ait fait un grand discours en rappelant la gravité du moment, en menaçant la lâcheté potentielle, enfin il visait un peu ses partenaires. Il l'a fait ce discours à Prague, c'est-à-dire capitale de l'ancienne Tchécoslovaquie, qui avait été dépecée et donnée à Hitler dans le bureau d'Hitler à Munich en présence de Mussolini, d'Aladier et Jean Berlin. Donc c'était très symbolique, et je pense que cette comparaison de Munich, et quand on regarde, j'ai vu passer des affiches de l'époque, de 1938, c'est exactement les mêmes arguments. On ne va pas mourir pour Danzig, on ne va pas mourir pour le Donbass. Mais on peut bien, il y avait des affiches de pacifistes, entre guillemets, extraordinaires, qui sont exactement les arguments du Rassemblement National, par exemple, ou de la France Insoumise aujourd'hui, disant, mais finalement, Poutine ne propose pas des choses invraisemblables. Vous parliez de Ségolène Royal, c'est pareil. On peut négocier avec Poutine, il suffit de lui donner un peu des territoires qu'il réclame, et c'est fini. Ouais. Mais ça fait 20 ans que ce n'est pas fini, qu'il a obtenu un bout de la Géorgie.
Et qu'il ne s'arrêtera pas.
Qu'il a obtenu la Crimée, et qu'à chaque fois, ça assouvit son désir d'aller davantage, ça lui montre notre faiblesse, et il ne comprend que la force. Et il profite à chaque fois des territoires acquis pour continuer son expansion. Mais c'est vrai que c'est compliqué à faire comprendre aux opinions publiques que cette guerre est véritablement la nôtre.
On parlait d'Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres hier. Il a dit ne laissez pas entrer les nationalismes. Ils étaient déjà la guerre. Ils sont désormais la défaite face à la Russie. Cette question pour vous, de Martine dans le Pas-de-Calais. Personne n'a envie de la guerre. Nous avons fils et mari. Mais le moment venu, aurons-nous le choix ? Pourquoi ne pas l'envisager ?
Mais en fait, tout dépend de quel scénario on parle. Dès qu'on évoque cette question très concrète de savoir qui se bat où, la question est dans quel type de scénario. Et dans cette question, encore une fois, de la mobilisation des opinions publiques, plus globalement de la mobilisation d'une société, parce qu'effectivement, on parle d'économie de guerre depuis un an, je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris ce que signifie une économie de guerre en termes de prise en main par l'État d'un certain nombre de structures économiques, de planification, d'imposition de temps de travail qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît, etc. etc. C'est des répercussions très concrètes quand on parle d'économie de guerre, y compris dans la vie.
C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup expliqué, en fait. C'est un mot qu'on utilise souvent.
On ne peut pas dire qu'on ait senti un passage radical d'une économie libérale en situation de paix à ce qu'on appelle une économie de guerre qui, en général, perd un peu de son libéralisme et donc de ses libertés. Il faut en avoir conscience. Toute la question est quand même de savoir de quoi parle-t-on. Et en fait, encore une fois, quand on parle des références plus lointaine des deux guerres mondiales, il faut avoir conscience à quel point dans les imaginaires nationaux, la question de l'invasion du territoire est une question décisive. Ouais. Les cyberattaques, les cybermenaces, la lutte informationnelle, c'est déstabilisant, c'est désagréable. Ça fait partie de la relation qu'est la guerre. Dans un rapport de force, il y a une relation. Donc dans cette relation qu'on entretient avec des gens avec qui on est pas d'accord, il y a des choses désagréables. Mais ceux qui se battent ne sont pas dans la même situation que ceux qui ne se battent pas. Et ceux qui se battent sur leur sol ne sont pas dans la même situation que ceux qui se battent ailleurs que sur leur propre sol, et donc avec des familles, un arrière, etc., qui est protégé. Et donc, il faut se rendre compte que on ne peut, en fait, la perception de la menace ne peut pas être la même dans des dimensions, dans cette, en prenant en compte cette dimension territoriale qui joue énormément dans la manière dont une population se sent directement menacée ou pas. Ça veut pas dire... la même chose de se sentir cybermenacée et de penser que sa famille peut se prendre un obus sur son immeuble en pleine nuit. C'est pas la même chose de se sentir menacée par des luttes informationnelles et de risquer effectivement de devoir voir son mari ou son fils, parce qu'il se trouve que c'est plutôt les maris et les fils qui partent que les femmes et les filles, même s'il y en a, de les voir partir.
C'est pour ça que ça va être difficile.
Potentiellement. Ne pas revenir.
Entre guillemets, de convaincre la classe politique, et on l'a vu qu'elle est extrêmement sceptique sur la stratégie d'Emmanuel Macron, qu'il va être difficile de convaincre l'opinion publique l'engagement.
C'est pour ça que même si un chef politique, une autorité politique et des chefs militaires ne peuvent pas expliciter tous les scénarios, et sinon on met tous nos plans sur la table, ce qui n'a aucun sens, il y a sans doute une pédagogie dans la parole à avoir pour expliquer concrètement ce qu'un certain nombre de choses signifient. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'est pas la même chose. Par exemple, depuis la fameuse déclaration sur les troupes au sol, la communication militaire française, qui a des défauts mais aussi des savoir-faire, réexplique très bien ce que ça signifie d'être nation cadre aux frontières de l'OTAN, par exemple, en montrant où la France serait nation cadre, à quel type de frontières, donc où est-ce qu'on enverrait unités, d'être capable d'encadrer des troupes étrangères en étant pilote, si je puis dire, de l'encadrement. Le général Perruche l'expliquerait mieux que moi. Et donc de réexpliquer ces choses très concrètes avec des cartes, puisqu'on a aussi parlé de cartes aujourd'hui dans les échanges politiques, avec des chiffres, avec des types d'armement. Et ça vient concrétiser des choses et appeler à la rationalité, sans doute, plutôt qu'à des émotions qui sont souvent contradictoires et difficiles à manier.
Vous parliez de l'OTAN, Patrouchev, qu'on cite souvent sur ce plateau, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité, évoque l'exercice de l'OTAN qui est en cours au nord de l'Europe, alors même que la Suède est aujourd'hui officiellement dans l'OTAN. Il dit que les exercices des forces de l'OTAN ressemblent à une répétition en vue d'une confrontation armée avec la Russie. Ça aussi, c'est des déclarations.
Ça, c'est de la communication vers l'opinion publique russe, en disant, vous voyez bien, la guerre en Ukraine que nous menons, c'est une guerre patriotique. Parce
que ils nous attaquent.
Ils veulent nous attaquer. Ouais. Voilà.
Et dans la série, l'histoire s'écrit sous nos yeux, et parfois on redoutait ici même sur ce plateau des accidents dans cette guerre. Ce qui s'est passé, quand même un mot peut-être avec vous, avec une frappe sur Odessa, l'armée russe a effectué des frappes. Et au moment où Zelensky et le Premier ministre grec était en visite. Le tir était à 150 mètres de ces deux figures européennes. Que se serait-il passé s'ils avaient été touchés ? Marie Van Rettegem, je sais que vous vous êtes posé uniquement la question.
C'est une vraie question parce que le Premier ministre grec est donc membre d'un pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était mort par le fait d'un missile russe? Et là, je pense que est-ce que cette frappe était intentionnelle ou pas intentionnelle? Si elle était intentionnelle, il y a toutes les raisons de le penser parce qu'il y a eu des précédents. Zelensky, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat. Il y a eu des ministres qui ont été suivis et les services russes, on l'a vu encore récemment avec l'armée allemande, sont extrêmement bien renseignés de tous les déplacements. Donc c'est possible que ce soit intentionnel. Et dans ce cas, ça aurait très bien pu être, si le coup avait réussi, pour Poutine une manière de tester l'article 5, l'article 42.1 de l'Union européenne sur la solidarité en cas d'attaque. Et si ça n'est pas intentionnel, on est de toute façon passé à 150 mètres d'un drame très grave. Il faut se souvenir que les guerres sont déclenchées par des petits détails, et dont l'assassinat de l'archiduc de Sarajevo en 1914.
Encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses depuis cette époque-là. Non pas pour dire que tout va bien, hein, c'est pas mon propos du tout. Mais la crise des euromissiles au début des années 80, pendant la guerre froide, on attend des niveaux de tension entre l'Ouest et l'Est qui sont extrêmement élevés. Il y a aussi des manifestations pacifiques partout en Europe. Il y a aussi une inquiétude sur un débouché très concret de la conflictualité armée sur le territoire européen. Et en fait, ces strates mémorielles existent aussi. Et il faut en tenir compte parce que ça veut dire aussi que les opinions publiques des pays qui sont protégés par la dissuasion nucléaire, ont aussi appris, tous les plus de 60 ans, savent que la dissuasion nucléaire a fonctionné dans des moments de très forte tension. Ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera toujours, mais ça fait aussi partie de notre mémoire collective.
Mais j'allais dire que la différence par rapport à cette époque-là, la crise des romantiques, c'est qu'aujourd'hui, on a une guerre ouverte conventionnelle.
Absolument.
Alors certes, pas contre un État membre de l'OTAN, mais un État qui est très soutenu par l'OTAN et qui voudrait être membre de l'OTAN.
En tout cas, on peut prendre les paris que ces provocations-là vont continuer et qu'il va tester de plus en plus cette unité, cette solidarité de l'OTAN et la réaction des Européens. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques en disant cela ce soir. En tout cas, et on l'a très rapidement évoqué, c'est un sujet qui fait son retour partout en Europe. Le rétablissement du service national, du service militaire en Allemagne, en Grande-Bretagne, la question est posée par les chefs d'état-major notamment. En France, alors le gouvernement s'en tient à une déclinaison, à un service national universel pour un réarmement civique. Et vous allez le voir, en Lettonie, tout juste après la guerre en Ukraine, le gouvernement a rétabli la conscription. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
Des armes à feu factices pour ces jeunes de Lettonie et même des grenades imaginaires. Ces soldats en herbe font partie du nouveau programme de service militaire obligatoire instauré par le pays peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Je pense que tout homme sur Terre devrait au moins connaître les rudiments militaires.
12 mois d'entraînement pour tous les hommes âgés de 18 à 27 ans. Une solde de 400 euros par mois et à la clé, peut-être, de nouveaux soldats.
Ce service permet de ressentir les émotions et le quotidien de la vie militaire. S'ils aiment ça, certains d'entre eux rejoindront l'armée. En tout cas, on l'espère.
La Lettonie, pays frontalier de la Russie, rejoint ainsi la dizaine de pays européens où le service militaire est obligatoire. L'Ukraine, la Grèce, le Danemark, la Finlande ou encore la Suède depuis 2017. Des milliers de jeunes y sont sélectionnés sur la base d'un test en ligne.
Oui, ça fait un peu peur. On peut être appelé et si on refuse, on nous envoie en prison. Mais avec mes amis, on se dit qu'on veut avoir notre part dans la défense du pays, même si on n'a pas envie de perdre un an de notre vie.
Un modèle que d'autres en Europe veulent imiter face à la menace russe. Le débat est relancé en Allemagne et au Royaume-Uni. L'armée britannique compte 3 fois moins d'hommes et de femmes que l'armée française.
Il y a un air de 1939 en ce moment. Les États autoritaires se réarment et pour l'instant, l'Occident est réticent à prendre des risques. Nous devons nous réveiller et affronter cet état d'insécurité.
Un service militaire inconcevable pour ces jeunes Britanniques.
Hey, t'as entendu ? On est mobilisés. Mais je ne peux pas aller à la guerre. J'ai encore des posters de Spider-Man sur mon mur.
Il me faut au moins 2 siestes par jour. Je ne peux pas être sur le front et dire « Prends mon fusil, je dois me reposer ».
De notre côté de la Manche, 66% des Français regrettent la disparition du service militaire obligatoire. C'est moitié moins chez les jeunes. Un service dissous en 1997, après 2 siècles d'existence.
En effet, la conscription traditionnelle ne répond plus aux exigences d'une armée moderne dans un grand pays moderne.
À la place, le service national universel fait son apparition en 2019.
basé sur le volontariat, le SNU est la cible de nombreuses critiques. Cauchemar nationaliste pour certains, embrigadement militariste pour d'autres. Le SNU est aussi moqué pour son côté bon enfant.
On a fait du kayak, on est parti, on a fait tout le tour de l'État, on s'est retrouvé à la mer. On a vu des flamants roses, c'était magnifique.
Exemple aussi avec cette vidéo de l'Académie de Montpellier où l'on voit les recrues danser sur un célèbre chant gospel. Critiques nombreuses sur les réseaux sociaux.
Mais c'est tout de même hilarant ce SNU. Plus cela va, plus cela ressemble à la 7e compagnie au pays des neuneux.
Pierre angulaire du réarmement civique, voulu par Emmanuel Macron, le SNU pourrait un jour devenir obligatoire. Reste la question de son coût, qui avoisinerait alors les 2 milliards d'euros par an.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce sujet de Romain Besnénou, y compris un brin d'humour sur ceux qui disent « Non, j'ai encore des posters de Spider-Man ». Ça paraît tellement lointain, l'idée de repartir dans l'idée d'une conscription. Merci pour ce reportage, en tout cas. Quel est l'intérêt de rétablir le service militaire obligatoire quand on est une puissance nucléaire, général ?
Alors, c'est effectivement la bonne question de marier le mot nucléaire avec le mot conscription. Ouais. Parce qu'il faut se souvenir que l'origine de la conscription, c'est la levée en masse, c'est-à-dire la mobilisation de toutes les énergies du pays pour faire la guerre. Ça remonte à Valmy. Hein. C'est le fondement de la défense vitale d'un pays. Sauf que le fait nucléaire a modifié légèrement ça. En ce sens qu'on admet aujourd'hui qu'un conflit nucléaire entre des puissances dotées aboutirait inévitablement à la fin du monde. Hein, oui. Cataclysme, voilà. Entre parenthèses, ça concernerait aussi Moscou et Saint-Pétersbourg, hein, au passage pour M. Peskov. Et donc, il faut... faire la différence, et ça c'est un problème pour la France quand elle parle de défense, parce que je prends l'exemple du bouclier antimissile allemand, vous savez, qui a suscité quand même quelques aigreurs côté français, parce que les Français n'étaient pas trop dans la boucle, et les pays qui ne sont pas nucléaires ont besoin de toutes les protections possibles. Le pays qui est nucléaire sait que pour qu'un pays s'en prenne à ses intérêts vitaux, c'est-à-dire à son territoire, à ce qui se passe, sa population, etc., ça risque d'entraîner des conséquences considérables pour le pays agresseur, même la Russie. Donc, on est quand même très protégé en tant que puissance nucléaire.
Oui, et donc, ça n'empêche pas, par exemple, les Britanniques d'avoir un débat sur le service militaire.
Parce qu'après, il y a toujours dans les démocraties la question de mobiliser ses citoyens autour d'un objectif de défense commun et de sécurité commune qui doit être partagé et assumé par l'ensemble de la population. Vous voyez, la difficulté, par exemple, en Ukraine actuellement, c'est que les gens se rendent compte que la mobilisation n'est pas tout à fait juste et que beaucoup échappent à la mobilisation. Et ce qui fait que la lassitude de ceux qui sont au front tend à les décourager petit à petit.
Alain Pirot.
Il y a plusieurs strates aussi dans la réalité du débat. Quand on évoque le retour, la possibilité du service militaire, je trouve que ça fait partie des dommages collatéraux de la déclaration du président Macron. C'est-à-dire qu'on va très très loin. Lui évoque l'idée d'envoyer possiblement des conseillers militaires. On en arrive à l'idée de dire à tous les jeunes, il faudra se mobiliser. Quand on voit les images que vous avez mises dans le reportage du SNU, on comprend bien à quel point c'est le seul dispositif aujourd'hui qu'on met, pour moi, à tort, en relation avec le service militaire.
Qui n'est pas du tout le cas.
Ouais. Qui n'est pas du tout le cas. Et les armées ne demandent même pas à faire une comparaison. C'est-à-dire que le SNU, c'est des stages de cohésion, c'est des vies en internat. On est très loin. Enfin, vous avez montré les champs. On a montré au début du SNU tous les malaises parce qu'on demandait à ces jeunes élèves de poser pour des cérémonies au soleil. Et en fait, toutes les images qu'il y avait au début, c'était des malaises par manque d'hydratation. Heureusement que les armées sont mieux organisées pour hydrater leurs soldats quand il y a des cérémonies. Donc, je trouve qu'on mélange beaucoup de choses. Néanmoins, ça pose une question qui est beaucoup plus importante pour moi et qui est, est-ce que notre société, notre économie s'est préparée à l'éventualité, je pense que c'est l'une des volontés du président Macron, de nous préparer, de préparer les esprits. Le SNU n'est pas forcément une réponse, mais en tout cas de préparer à l'idée de dire, on évoquait l'économie de guerre, Il est vrai que dans les usines de l'industrie de défense, les horaires ne sont pas ceux de l'économie de guerre, des conflits qu'on a pu connaître dans le passé.
Ouais. Je mets dans le débat cette déclaration de Boris Pistorius, qui est le ministre de la Défense allemand, qui s'est exprimé récemment sur le sujet du service militaire. Il dit « L'Allemagne doit songer à rétablir le service militaire. Nous devons nous demander qui doit défendre ce pays quand les choses deviennent sérieuses. » C'est-à-dire l'Allemagne qui se met à penser au service militaire. Oui.
Pourquoi ? Parce que l'armée allemande a été amenée à des données tellement faibles que eux invoquent un réveil simplement pour ramener l'armée allemande à des normes, on va dire, correctes.
D'accord.
En fait, le débat sur le service militaire, il mélange plein de sujets. Alors pour nous, Français, en plus, il mélange beaucoup de sujets de politique intérieure. Il faut quand même qu'on ait conscience de ça.
La cohésion nationale,
est d'abord un sujet de politique intérieure et d'inquiétude sur ce qu'on appelle cohésion sociale et nationale, sans arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on met derrière ces termes, quels sont les critères de la bonne cohésion, quels sont les symptômes de la mauvaise cohésion, en général, on les voit. En revanche, les critères de la bonne cohésion, personne n'est d'accord là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Et on a en France, en plus, une mythologie républicaine. Vous avez cité Général Valmy. En fait, il y a déjà eu des conscriptions avant Valmy. Au cours du 19e siècle, ça fluctue tout le temps parce que, en fait, la conscription répond d'abord à des besoins militaires. Donc, moins de besoins militaires, moins d'appels sous les drapeaux, plus de besoins militaires. On remonte le nombre d'appels sous les drapeaux. Et il y a quelque chose d'assez pragmatique jusqu'à ce qu'on arrive dans le 20e siècle et dans cette idée qu'autour de la 3e République, il faut construire une unité républicaine. Et dans notre mémoire, nous pensons que le service militaire a d'abord servi à ça. Or, le service militaire n'a pas d'abord servi à créer de l'unité autour de la République.
Il a servi à quoi ?
Il y a contribué, sans doute, dans ce qu'est la Troisième République, mais il a d'abord servi à fournir une armée de masse. Et on s'est d'ailleurs pas mal inspiré de ce que faisaient nos voisins prussiens, enfin du modèle prussien et allemand de conscription pour construire ça.
Regardez Christophe dans l'Essonne. Il dit « L'abandon du service militaire a-t-il déconnecté la population de la réalité ?»
Mais ça dépend de quelle réalité. La deuxième question sur les services militaires, c'est toujours de se demander à quoi on emploie les gens. Il suffit pas d'avoir des dizaines et des centaines de milliers d'hommes sous l'uniforme pour que ça se fasse une armée efficace. Des soldats efficaces et des soldats équipés, entraînés avec du matériel qui fonctionne. Donc ça joue. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, dans les démocraties où les armées sont professionnalisées, la question se pose parce qu'il y a un problème de recrutement dans les armées professionnelles en Grande-Bretagne, en Allemagne. Oui. On commence à le voir aussi en France. Et donc on commence à se dire, mais en fait, si on n'arrive pas à recruter, comment faisons-nous ? Mais dans toute l'histoire de la conscription, il faut avoir en tête que pour qu'une conscription fonctionne, qu'elle soit partielle ou totale, parce que par exemple en Suède, il y a un service militaire qui a été rétabli en 2018-2019 de mémoire, c'est pas un appel total, c'est une classe d'âge en Suède, c'est 90 000 jeunes, l'arrivée en fait il y en a 4 000 à 6 000.
Mais en Finlande, il y a 80% des hommes qui effectuent une forme de service militaire et qui sont des réservistes.
Mais on est dans des proportions totalement inversées par rapport à notre système, c'est-à-dire que les Finlandais ont une armée essentiellement constituée de réservistes et beaucoup moins formée de professionnels. Nous, on est dans des proportions inverses. Mais encore une fois, on n'est pas dans la même configuration, parce que les Finlandais n'ont pas de dissuasion nucléaire. Et pour qu'un service soit accepté, je termine juste là-dessus, en fait, il faut qu'il y ait un consensus qui précède la conscription sur sa nécessité. En fait, la conscription ne fabrique pas du consensus politique.
Ça, c'est le débat politique. Mais sur le fait que, quand le président évoque la menace militaire, le moment d'histoire qui s'accélère que nous évoquons là, l'idée que cette guerre est notre guerre...
Que ferions-nous faire à une classe d'âge dans son entier sous les armes ?
C'est 700 000 personnes.
C'est 700 000 personnes. Que ferions-nous faire ?
On ne sait pas faire.
On ne sait pas faire.
Non seulement on ne sait pas faire, mais surtout on ne sait pas quoi en faire. En fait, déjà dans les années 70, alors on maintient le service pour des tas de raisons, mais on commence déjà en 65 à expliquer qu'on ne va pas savoir quoi faire à notre armée d'appeler pendant plusieurs décennies.
Les militaires n'en veulent pas.
Ça serait très très difficile à rétablir entre nous, parce que autant c'est facile de supprimer la conscription, de vider les casernes, de rendre les infrastructures, autant c'est difficile de recréer tout ça. Et ça coûterait une fortune et ça prendra beaucoup de temps, sans parler de la motivation des gens de rallier effectivement. Un pays comme la France, à mon avis, qui est doté de l'arme nucléaire, a besoin d'une armée suffisamment forte pour faire de la haute intensité pas forcément sur son territoire. Parce que nos intérêts vitaux ne sont pas exclusivement réservés à notre territoire, si vous voulez. Donc il faut avoir, alors on peut discuter de l'influence de la guerre en Ukraine sur nos intérêts vitaux, il y en a, c'est pour ça qu'il faudrait les expliquer à la population, hein, la capacité des Russes à avoir un relatif monopole dans l'exportation du blé, des céréales, des engrais, etc., ça n'est qu'un facteur parmi de nombreux autres facteurs qui auraient immédiatement des répercussions sur nous. Il faut absolument expliquer ça aux gens.
Ouais. Et... En tout cas, ce débat revient, y compris dans d'autres pays européens. Vous l'avez dit les uns et les autres, Mario Van Rettegem, il n'y aura pas évidemment d'unité européenne sur ce sujet. Chacun le fait en fonction de sa propre histoire et de ses propres risques, y compris de géographie, comme vous l'expliquiez tout à l'heure.
Et en Allemagne, c'est très extraordinaire quand on sait d'où vient l'Allemagne et cette tradition pacifiste très forte qui déjà a fait un pas de géant en livrant des armes et des chars dans un pays dont les armées nazies avaient perpétré des massacres. C'est un tabou extraordinaire pour l'Allemagne, ce qui explique aussi beaucoup la réticence et la pusillanimité critiquée du chancelier Scholz. Et donc là, c'est un pas de plus. Et c'est vrai que le ministre de la Défense Pistorius, qui est beaucoup plus allant que son chancelier, notamment c'est lui qui avait dit en effet, il faut se préparer à ce que la Russie attaque un pays de l'OTAN dans 5 ou 8 ans. Donc il est beaucoup plus, pas va-t-en-guerre, mais en tout cas plus préparé à la menace et plus réaliste sur la menace. Et c'est vrai que ses propos sur envisager un service militaire en Allemagne, c'est vraiment une révolution.
Mm-hmm. Mais il y a une vraie rupture, effectivement, idéologique en Allemagne. Je voudrais ajouter par rapport à ce que disait Bénédicte, c'est que quand on dit que c'est un sujet de politique intérieure, c'est tellement vrai que je trouve que la question du téléspectateur réveille une forme de nostalgie, qui parfois une lubie.
D'une nostalgie du service militaire ?
Oui, et qui s'attache à des éléments très concrets, qui est l'un des arguments qui avait été évoqué au SNU au début, c'était « ils se lèveront à 7 heures ». Comme si d'un coup, on allait réveiller une classe d'âge parce qu'on allait les réveiller à 7 heures. D'ailleurs, dans le reportage, vous avez une jeune fille qui dit qu'elle fait 2 siestes. Il y a peut-être une forme de parallèle. Mais vous voyez, derrière tout ça, on mélange beaucoup de choses. Alors que les armées, elles ont besoin aujourd'hui de gens extrêmement formés au maniement d'équipements qui sont complexes et technologiques. Et il n'est pas certain que le SNU, ça c'est même certain, sera la réponse. Mais même la forme de service militaire, il ne sert à rien d'avoir 800 000 jeunes quand il faut mieux des gens très formés sur le long terme.
Alors, je voudrais qu'on regarde maintenant un document assez exceptionnel. À moins d'une semaine des élections en Russie, la veuve de Navalny appelle les Russes à ne pas voter Poutine et à déposer dans l'urne un bulletin au nom de son époux. Initiative alors même que l'extrait d'un entretien entre Navalny et un parlementaire français refait surface, un témoignage posthume dans lequel l'opposant revient sur sa tentative d'empoisonnement par la Russie. Déjà à l'époque, vous allez l'entendre, il évoquait sa mort. Laura Rado, Erwan Ilion.
La rencontre se déroule dans un hôtel ultra sécurisé de Berlin, le 17 décembre 2020. Alexei Navalny apparaît en bonne forme physique. Pourtant, 4 mois plus tôt, il a fallu un caisson médicalisé pour le transférer de Sibérie en Allemagne. Après un grave malaise dans un avion, il est sauvé par les médecins qui détectent dans son corps un puissant poison, le Novichok. Une tentative de meurtre signée du FSB, sur ordre direct de Poutine, selon lui.
C'est là la beauté de l'empoisonnement. Personne ne veut savoir quand et comment vous avez été empoisonné. Beaucoup de gens se demandent pourquoi choisir le Novichok alors que c'est très compliqué à utiliser. Et le deuxième objectif, peut-être le but principal de ce choix, c'est parce que c'est terrifiant. Les gens commencent à avoir peur. C'est l'un des bonus de l'empoisonnement. Beaucoup de gens commencent à prendre peur. Et Poutine apprécie l'idée que les gens aient peur de son pouvoir obscur.
Cet entretien enregistré il y a 3 ans, c'est cet ancien député français, envoyé par le Conseil de l'Europe, qui l'a mené. Jacques Maire doit alors recueillir des preuves de cet empoisonnement.
J'avais face à moi un garçon fort, détendu, assez souriant, maniant l'humour, qui d'ailleurs est devenu une arme de guerre pour lui pendant sa période en prison, charismatique. Donc, aucune question interdite, un rapport très facile. Il assumait complètement son rôle, à savoir « je vais jusqu'au bout, je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien ». Et ça se voyait très fortement.
Un homme prêt à se sacrifier au nom de son combat pour la liberté. Alexei Navalny se sent en danger, en permanence surveillé, Mais l'opposant n'envisage pas une seconde de ne pas rentrer en Russie, même au péril de sa vie.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passera. Serais-je arrêté à l'aéroport? Je ne sais pas. Peut-être que j'arriverai et qu'ils attendront que tout se calme, puis ils m'arrêteront. D'une manière générale, s'ils me tuaient, ça ne changerait rien, car il y a d'autres personnes qui sont prêtes à me remplacer. Mais je pense qu'il y a quelque chose de personnel chez Poutine, avec cette manière étrange de ne jamais prononcer mon nom.
Un témoignage qui, 3 semaines après sa mort, prend une dimension historique. Un message adressé à tous ceux qui continuent de braver l'autorité du Kremlin, comme ces milliers de Russes présents lors des funérailles d'Alexei Navalny la semaine dernière à Moscou. Sa veuve, Yulia Navalnaya, leur a justement lancé cet appel hier. Rendez-vous le jour de l'élection présidentielle. Nous devons nous rendre au bureau de vote le même jour et à la même heure, le 17 mars à midi. Vous pouvez voter pour n'importe quel candidat à l'exception de Poutine. Vous pouvez déchirer votre bulletin de vote. Vous pouvez écrire Navalny en grosses lettres. Une action de protestation, comme un cri de ralliement contre Vladimir Poutine, c'était l'une des dernières volontés exprimées par Alexei Navalny quelques jours avant de mourir.
Ce témoignage posthume qui montre le courage d'Alexei Navalny. Nous revenons à l'actualité du jour avec donc cette consultation d'Emmanuel Macron qui a reçu l'ensemble des acteurs politiques. Et cette question de Sébastien, Emmanuel Macron ne tient-il pas surtout à montrer à Poutine qu'il sait lui aussi parler le Poutine?
Oui. C'est l'établissement d'un rapport de force. Il faut être cohérent entre ses déclarations et ses actions. Autrement, on n'est pas crédible. Et donc, si rien ne sert de dire que les Ukrainiens ne doivent pas perdre si on ne leur donne pas les moyens de gagner, au moins de ne pas perdre d'autres territoires. Et ultérieurement, de pouvoir mettre les Russes, les armées russes, sur le recul, de manière à, si on a négocié, être en position plutôt favorable. Autrement, je crains le pire pour l'Ukraine et pour nous après.
Et pour le reste de l'Europe. Dans le témoignage de Navalny, on l'entendait dire que Poutine apprécie que les gens aient peur. Est-ce que la France fait peur? Est-ce que la France fait peur à la Russie quand elle bombe le torse, quand elle marque l'absence de ligne rouge, lorsqu'elle hausse le ton?
Je crois qu'on ne doit jamais oublier que la France est une puissance nucléaire. Donc ça fait partie très clairement du rapport de force. Et cette idée de la peur, il est évident dans les déclarations du président Macron, c'est l'idée aussi d'affronter cette peur en disant c'est pas sur moi que ça marchera. Ça marchera peut-être, et ça c'est l'effet collatéral politique, ça marchera peut-être sur mes dirigeants de parti dans mon pays, c'est leur problème, on verra aux élections, moi ça marchera pas. Ouais. Est-ce que la France fait peur du point de vue terrestre? Parce que c'est ça au fond la question, du point de vue militaire avec les équipements. Là c'est un autre débat. Et là, on arrive à ce moment où, je vous disais, l'incantation, il affronte les choix de long terme pris depuis 20 ou 30 ans sur les avions, sur les équipements et sur notre capacité à fournir aux Ukrainiens des équipements en nombre. On voit bien la difficulté depuis le début du conflit.
La France, c'est jamais la France seule, quand même, sur le plan militaire. C'est la France dans une alliance qui s'appelle l'OTAN et c'est la France dans l'Union européenne et en Europe. La difficulté, c'est qu'on peut vouloir affronter la peur. Vous en avez déjà beaucoup parlé sur ce plateau, mais quand ce qu'on exprime provoque des expressions en désordre derrière qui ne sont pas cohérentes, on peut aussi envisager qu'on fasse un peu moins peur quand on voit un certain nombre de chefs d'État étrangers qui se désolidarisent des réactions. Et donc c'est toujours aussi la difficulté, c'est que l'alliance rend fort, mais l'alliance impose aussi une parole qui soit cohérente à une échelle assez large.
En tout cas, la France cherche cette cohérence puisqu'il y a une nouvelle réunion qui est organisée aujourd'hui avec une vingtaine de pays qui participent à une visioconférence justement pour entrer dans le détail de ce que doit et peuvent faire les alliés pour soutenir les Européens. C'est toujours la même démarche que cette réunion qui était organisée avec une volonté de la France de prendre le leadership.
Qui était prévue à Paris et ils n'ont pas voulu venir à Paris.
C'est ça ? Pour quelle raison ?
Ils ont un peu boudé, quoi. C'était un petit peu difficile, la fin de la réunion dernière. Donc, c'est bien, la réunion a lieu, mais elle était prévue au ministère de la Défense, au ministère des Affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères allemande a vu son homologue français avant la réunion. Il y a un petit désordre, et c'est là que je parlais du coup de poker. C'est-à-dire que Macron a très bien réussi le message envoyé à Poutine de dissuasion, mais malgré tout, il faut l'unité de l'Europe. Et ça, il a joué un peu, il a risqué la désunion de l'Europe en braquant le chancelier Scholz, en forçant un peu les alliés à faire ce qu'ils n'avaient pas envie à dire ce qu'ils n'avaient pas envie qu'on dise.
Et nous venons maintenant à vos questions. Dominique Danlin, la déclaration de Macron ne traduit rien d'autre que la réalité du moment. Qui peut affirmer que l'envoi de troupes ne se fera jamais ?
On ne peut rien dire là-dessus. Ce qu'a dit le président, c'est que rien n'était exclu. Donc ça commence par effectivement le conseiller, ça peut être l'équipe de déminage, ça peut être des éléments de renseignement, ça peut être voilà. Donc c'est pas un tout ou rien, envoyer des troupes ou ne pas en envoyer. On peut envoyer quelques troupes pour faciliter, aider, renforcer et sans prendre une part directe à la confrontation sur le front.
C'est évidemment une rupture par rapport à ce qu'avait dit dès le début du conflit Joe Biden, qu'il y avait dit qu'il n'y aura aucun soldat américain sur le sol ukrainien, on voit bien.
Ce qui a puissamment encouragé Vladimir Poutine à aller de l'avant.
Voilà. Allez, question de Daniel en Haute-Garonne. L'esprit de Munich n'est-il pas en train de s'insinuer dans la tête de certains de nos politiques ?
Mais en fait,
historienne.
Oui, mais on en a déjà beaucoup parlé. La question, c'est qu'effectivement, il y a des parallèles qu'on peut faire. Et en même temps, je crains que si on veut expliquer réellement aux sociétés européennes et en particulier à la société française qui se joue, moi, je crains que l'invocation de l'esprit de Munich n'aide pas forcément à éclairer le débat parce que ça paraît à la fois très loin, avec une situation un peu différente. Il y a des dissonances, ça n'est pas absolument semblable. Donc, il y a des points communs. En fait, l'histoire sert à ça, hein, essentiellement à réfléchir en voyant quels sont les points communs, quelles causes entraînent quels effets, mais aussi à resituer les choses dans des espaces et dans des temps.
Quand il évoquait les lâches, il avait ça en tête ?
Ah, je ne sais pas, il faudra lui demander.
Bon, dès que je le crois, je lui dis.
Je pense.
Il avait son homologue allemand en tête aussi, je crois.
Voilà, oui, c'est. Allez, envoi de troupes au sol ou pas, n'est-il pas temps de faire tourner à plein régime les usines d'armement européennes ?
En tout cas, on essaye de faire un tour de passe-passe, notamment en France, et de faire croire à l'économie de guerre à l'heure du déficit structurel de notre économie. C'est-à-dire, l'État n'engage pas le quoi qu'il en coûte sur l'industrie de défense et dit, il faudrait que ça tourne à plein régime. Ça ne marche pas. Et en ce moment, vous avez des entreprises de l'industrie de défense française à qui on demande de rembourser les prêts garantis par l'État donnés pendant le Covid. On leur dit, vous pouvez les repousser, mais on augmente le taux d'intérêt. C'est pour vous dire à quel point on n'est pas du tout... du point de vue structurel dans l'économie de guerre. On est dans une sorte de grand flou, d'ailleurs les industriels vous le disent, on ne voit pas les commandes à long terme et on nous demande d'investir dans des machines qui vont demander 15-20 ans à amortir. Enfin,
c'est assez inquiétant ce que vous dites du coup.
Non, je pense
que... C'est-à-dire que si on monte le ton, on hausse le ton vis-à-vis de la Russie en essayant d'entraîner l'Europe et que derrière, vous êtes en train de nous expliquer qu'au fond, on n'est pas du tout, depuis 2 ans, on n'a pas du tout mis en mouvement de quoi produire de l'armement européen.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut travailler au niveau européen. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a très bien compris, c'est Thierry Breton. Parce qu'on voit, en mobilisant toutes les ressources industrielles de défense de l'Europe, on est arrivé à produire péniblement 300 000 munitions, là où on en avait promis 1 million. Hein, vous voyez la difficulté. Et aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des munitions en urgence dans d'autres pays fournisseurs.
On les achète ailleurs, effectivement.
Donc, il faut travailler au niveau européen.
Sacha, à Paris, donc c'est Emmanuel Macron qui va entraîner toute l'Europe dans la guerre ?
Non, Emmanuel Macron crée un électrochoc pour faire en sorte que les pays réticents à aller plus loin prennent conscience et soient entraînés eux-mêmes par la nécessité et le constat de l'urgence. C'est ça un peu
L'urgence, elle vient d'où ? Elle ne vient pas de la poussée militaire des troupes russes
Elle vient du fait que l'Ukraine est en situation défavorable sur le terrain actuellement, que le Congrès américain est bloqué et qu'il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois très difficiles à passer pour l'Ukraine sans munitions. Et l'un des scénarios de spéculation, c'est qu'on essaye de négocier, entre guillemets, quelque chose ou de figer le combat avant l'élection américaine pour, en tout cas, de figer un peu les lignes de combat et à ce moment-là, peut-être, d'envoyer des troupes de dissuasion sur le terrain en Ukraine.
Est-ce que c'est, les troupes, est-ce que c'est ce que réclame Zelensky ?
En tout cas, ils étaient très contents des déclarations du président Macron.
La seule sécurité des pays européens n'est-elle pas la force de dissuasion nucléaire française ?
Oui, pourquoi pas ?
Allez, Poutine pourrait-il accepter des négociations de paix aujourd'hui, général ?
Oui, à condition qu'on accepte ces conditions, oui. C'est-à-dire les conditions initiales. Alors tout ça pour ça, des dizaines de milliers de morts pour en aboutir au plan de Poutine de 2022, je crois que ça ne serait pas un grand succès pour l'Europe.
Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Rendez-vous 17h30 en direct. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver quand vous voulez en replay, en podcast, en rediffusion le matin, le soir. Belle soirée à vous.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.